à l'entrée de la terre. « Vous occupez pas de moi !» dit Marthe en reprenant son souffle et en essuyant d'un revers du bras son visage ruisselant de sueur. « Faites avancer les bêtes. Là, oui, voilà.
« Vous voulez encore jouer les malignes, hein ?»
lança Octavine.
« Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que nous perdons notre temps. Si on avait la dombale, on aurait déjà tiré au moins 10 sillons. »«
Rien du tout. C'est avec cette charrue qu'on fera tous nos labours, que ça vous plaise ou non. » Ce Brabant, Jean se faisait une joie de les traîner. Il n'a même pas pu l'essayer avant de partir. On était en pleine moisson. De toute façon, la terre était trop sèche. Maintenant, elle est propice, et que le diable m'emporte, mais rien que pour faire plaisir à Jean et pouvoir le lui écrire, je vais labourer à sa place,
lança Marthe en abaissant le levier de terrage.
Heureusement que le vendeur nous a bien fait voir comment ça fonctionne et que j'étais avec Jean quand on l'a acheté,
pensa-t-elle.
N'empêche, pourvu que ça marche.
Allez !
Cria-t-elle en touchant les vaches de son aiguillon.
Et vous, mère, tâchez de guider les bêtes bien droit. Il faut que ce premier sillon soit comme une règle.
Il le fut, et elle pensait déjà avoir gagné la partie. Car contrairement à la dombale qui exigeait que l'on pesât sur ses mancherons pour la maintenir en ligne, le Brabant, par son propre poids, prenait de lui-même son assise. Marthe, une main sur le corps de la charrue, devait tout au plus surveiller sa parfaite verticalité pour obtenir un labour régulier. Mais elle n'était pas au bout de ses peines et elle se crut même vaincue lorsque, à l'extrémité du champ, premier sillon ouvert, et après avoir prestement tiré sur le levier de terrage, elle dut extraire le Brabant de la terre. Cela fait, et à grand-peine, elle le soutint pendant que les vaches tournaient dans la fourrière. C'est alors qu'elle douta de ses capacités à poursuivre. Car maintenant, le tout n'était pas de maintenir la charrue hors de terre, encore fallait-il faire pivoter l'âge et l'enclencher dans sa nouvelle position. Ce fut, une fois de plus, le méchant regard de sa belle-mère qui la fustigea, la poussa à l'extrême limite de ses capacités, de sa force. C'est en gémissant comme une parturiente, en un formidable effort de tout le corps, qu'elle parvint à faire basculer l'ensemble et à placer le soc là où il devait être. Épuisée, mais fière d'elle, désormais certaine qu'elle pourrait poursuivre le travail qu'elle s'était fixé, ce fut elle qui se permit de lancer un coup d'œil triomphant en direction d'Octavine. Dépitée, vaincue, celle-ci baissa la tête et aiguillonna les bêtes. Au soir, tout le champ était labouré. Mais Marthe, malgré son bonheur d'avoir mené sa tâche à bien, était rompue. Moulue à tel point qu'elle douta être capable de reprendre, dès le jour suivant, le labour d'une nouvelle pièce. Pourtant, le lendemain matin, debout comme tous les jours à 6 heures, une fois les bêtes soignées et les enfants partis à l'école, c'est d'une poigne ferme, malgré les courbatures qui la torturaient et les muscles de son ventre et de son dos en feu, qu'elle ficha le Brabant en terre. Mercredi 20 décembre 1916, tranchée des revenants, 23h10.
Bon Dieu, c'est pas possible d'avoir aussi sommeil et de se geler autant,
pensa Jean en resserrant sur lui les pans dégoulinants d'eau de sa capote. Car maintenant, outre une envie de dormir de plus en plus écrasante, il était gagné par le froid. Un froid mordant qui, déjà, lui anesthésiait les orteils et les jambes.
Et si encore je pouvais taper les pieds sur du solide, ça les réchaufferait un peu,
se dit-il en décollant avec peine une de ses chaussures du trou boueux où elle était plongée.
Si ça se refroidit encore, c'est de la neige qui va tomber. Manquerait plus qu'elle. Mais c'est normal que pour Noël il y ait de la neige.
Il venait de penser à Noël et le regretta aussitôt. Car son évocation lui rappelait que, pour la 3e année consécutive, il allait réveillonner d'un bout de saucisson et d'un quart de mauvais vin au fond d'une tranchée infâme, loin des siens.
Et tout ça parce que ces salopards d'officiers planqués dans les bureaux tranquilles à l'arrière ont une fois de plus retardé les permissions. Ah, les pourris! Ils nous font le coup à chaque fois. C'est tous les 4 mois qu'on a droit à une semaine, qu'ils disent. Ah oui, belle façon de compter. Même en supposant qu'ils me l'accordent en janvier, ce qui n'est pas sûr, ça fera 5 mois pleins que je n'aurai pas remis les pieds chez nous. Et pourtant, je devais y être pour Noël. On m'attendait. Encore une chance si, dans 4 jours, je ne suis pas de garde comme ce soir. Ce n'était pas qu'il ait jamais fêté Noël avec faste. Ses finances ne le lui permettaient pas. D'ailleurs, Marthe, qui donnait les comptes, n'aurait jamais voulu que l'on gaspillât en superflu des sous si durement gagnés. Malgré cela, il était de tradition, entre bons voisins, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et pendant que les femmes étaient parties aux 3 messes de la nuit, que les hommes se réunissent pour cette veillée la plus longue de l'année. Bien installés, et au chaud, grâce au brasier qui ronflait dans la grande cheminée, paquets de tabac et job à portée de la main, ils y allaient de leur manille. Vers 11h30, quand venait le temps des palabres, des histoires et des potins, l'hôte garnissait la table de boudin, de jambon et de rillettes, de fromage. Parfois même, si l'année avait été très bonne, et les truffes abondantes au point de se vendre à bas prix, venait s'ajouter une fumante, baveuse et plantureuse omelette toute mouchetée de rondelles noires au parfum enivrant. Et les verres étaient toujours pleins de ce vin épais, lourd et noir, issu des ceps de Noah, d'Herbemont et d'Othello, de ces jeunes vignes replantées en plan américain après le phylloxéra. « Mais j'ai bien tort de penser à tout ça, » se reprocha-t-il, « car c'est des coups à faire comme le gamin d'à côté est là, et de se mettre à chialer de misère et de rage. Parce que, bon Dieu, c'est quand même pas humain de nous déplacer ici et là, mais toujours dans ces trous à rats et dans ce carnage depuis bientôt 28 mois. C'est pas humain, non. Mais pourquoi ces pourritures de l'état-major s'en priveraient? Ils ont toujours pris tout leur temps. On voit bien qu'ils ne sont pas en première ligne, ces salopards. Ils ne sont jamais pressés de changer quoi que ce soit. Ils ont bien mis près d'un an avant de s'apercevoir que nos pantalons rouges faisaient de sacrées belles cibles pour les fumiers d'en face. Et c'est pareil pour le casque. Lui, on ne l'a eu qu'en septembre de l'année dernière, juste avant la grande offensive en Artois, après plus d'un an de carnage. Mais combien de copains étaient déjà morts d'une balle ou d'un éclat dans la tête qu'aurait sauvé cette foutue cloche en ferraille. Quoique, là encore, faut pas croire au miracle. Le casque, Adrian ne doit plus quitter votre crâne, il vous protégera, nous avait dit le lieutenant Dumas. Pas un mauvais chien celui-là, juste avant l'attaque. Je m'en souviens comme d'hier. On était à côté d'Agnès Léduisant, un coin pourri lui aussi. Et en plus, il pleuvait autant qu'ici. Et puis, une heure après, il était mort, le lieutenant, malgré son putain de casque, la tête ouverte comme un melon, coupé en deux jusqu'au menton par un éclat de 150. Parce que les salauds d'en face qu'on venait de pilonner pendant 5 jours avaient encore des tubes en état et de quoi les charger. Pour ce qui a été d'attendre, ça a été pareil pour les masques à gaz. Il a fallu que tout un tas de pauvres bougres crachent leurs poumons et s'arrachent les yeux tellement ça les brûlait pour qu'on nous distribue autre chose que ces bricoles de rien du tout, en toile, ces compresses de tissu trempées dans je ne sais quoi et qu'on devait s'attacher sous le nez dès que l'alerte était donnée. On a dû patienter plus de 6 mois après le premier gazage d'Ypres pour qu'on nous donne enfin un masque à peu près efficace. Ça fait juste un an. Quant à la première permission, je l'ai attendue presque un an, elle aussi. Et mieux vaut ne pas trop y penser, se dit-il en essayant de chasser tous les trop nostalgiques souvenirs qui l'assaillaient. Il savait à quel point leur évocation risquait d'éveiller ce maudit cafard, toujours accroché en lui, prêt à le submerger, et qu'il devait sans cesse combattre sans toujours parvenir à le vaincre. C'est stupide de remuer tout ça, se dit-il. Mais comment faire autrement? Comment oublier ces instants, toutes ces visions? Comment effacer les quelques jours de ma première perme? Impossible, tout est là en moi, se souvint-il en laissant libre cours à sa mémoire. D'ailleurs, vu l'engourdissement proche de la léthargie contre lequel il luttait, il en était au point de se dire que toutes les pensées, pour peu qu'elles soient cohérentes, valent mieux que le sommeil.
« Saloperie !»
grogna-t-il en s'écartant un peu du parapet pour s'éloigner d'un rat qui venait de lui frôler le visage. pourriture de bête.
Tiens, j'en ai même perdu le compte, constata-t-il en reprenant sa place contre la